Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 108 avec Crush. Je raconte mon histoire d'amour à Crush, le podcast. Alors, cet épisode est une co-création avec Marie-Charlotte où elle me fait raconter divers épisodes de ma vie amoureuse, notamment les deux échecs amoureux qui ont précédé la rencontre avec mon mari et qui m'ont aidée en fait à vraiment identifier le dernier schéma amoureux qui se répétait chez moi. Elle m'a bien sûr posé la question de la rencontre avec mon mari, de comment on a construit notre relation. On a aussi pas mal échangé sur la phase d'insécurité que j'ai vécue 6 mois à peu près, oui, après le début de notre relation. Et là, je fais une révélation où je suis pas forcément fière, mais par esprit d'ouverture et de transparence, je l'ai raconté dans son podcast. Je t'en dis pas plus, je te laisse écouter et bien sûr, si tu as envie d'écouter des histoires de rencontres, de belles histoires d'amour, ben je peux que t'inviter à écouter Crush, le podcast. Marie-Charlotte, c'est vraiment bien mettre à l'aise pour laisser aux gens l'espace de raconter leur histoire d'amour. Et si toi, tu as envie de crusher tes dates, si tu as envie, toi, d'avancer sur ta vie amoureuse, de rencontrer la personne qui te correspond en vrai et en ligne, je vais faire une série d'Instagram Live ainsi qu'un webinaire où je te donnerai mes conseils en fait pour faire des rencontres naturellement, facilement. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien du programme dans les notes de l'épisode. Et notamment, tu peux t'inscrire pour le webinaire final où je donnerai vraiment mes plus grands conseils. Donc voilà, je te souhaite une bonne écoute et je te dis à la semaine prochaine.
Bonjour Sandy.
Bonjour Marie-Charlotte.
Comment est-ce que tu vas ?
Ça va bien. Hâte d'échanger avec toi.
Alors, nous sommes connectés en visio, Sandy, car tu vis en Suisse. Je suis très heureuse et même pour te dire assez impatiente d'avoir cet échange avec toi. Car aujourd'hui, Sandy, tu vas nous raconter l'histoire de la rencontre qui a bouleversé ta vie, mais tu vas aussi nous livrer ton regard de thérapeute psychocorporel spécialisé en amour. Tu vas nous livrer ton regard sur la rencontre amoureuse. Est-ce que tu peux, Sandy, m'en dire un petit peu plus sur ce qui se cache derrière ce terme de thérapeute psychocorporel ?
Oui, avec grand plaisir. Alors, l'approche que je pratique, elle se base sur la théorie polyvagale qui dit que finalement, notre manière de relationner, notre sentiment de sécurité en relation, il n'est pas seulement lié à notre tête, mais également à notre système de survie, notre système nerveux qui, sur la base des expériences passées, a enregistré l'autre, l'environnement, la relation, c'est quelque chose de sécure ou quelque chose de plutôt insécurisant. Et donc, la base de mon travail, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui a pu créer de l'insécurité chez la personne. Et cette insécurité, elle est sauvée vraiment. C'est un système de survie, c'est sauvé dans ton système nerveux.
Ton approche du coaching amoureux, Sandy, elle est particulière dans ce sens. Ce que tu dis, en fait, c'est que pour trouver l'amour, en fait, il s'agit pas d'optimiser ou d'améliorer tous nos atouts personnels, physiques, psychologiques. Il s'agit pas de devenir meilleur, même sa technique de drague, par exemple, il suffit pas d'améliorer tout ça, mais qu'il faut faire, en fait, un travail de fond qui repose sur une prise de conscience de nos propres schémas et mécanismes amoureux qui viennent, j'imagine, de notre enfance, de notre passé. Peut-être même, on peut parler de transmission culturelle intergénérationnelle. Notre éducation et aux modèles qu'on a eu, avec lesquels on a grandi et qu'on a eu sous les yeux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, sur cette approche que tu as, toi ?
Oui, alors pour moi, ce qui explique que quelqu'un arrive à être en relation, à être épanoui et heureux en relation, c'est vraiment quelle est la vision que cette personne a développée, plus ou moins consciente de l'amour, et qui va vraiment influencer non seulement par qui tu es attiré en relation, et également comment tu vas te comporter en relation et ce que tu penses mériter en relation. Et souvent, en fait, ça se passe un peu en trame de fond. Beaucoup de personnes viennent vers moi et viennent me dire « Mais Sandy, j'ai envie d'être en relation, c'est mon rêve ». C'est vraiment ce que j'ai envie de créer. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas pour moi. Et en fait, si ça marche pas, c'est qu'il y a une vraie logique. C'est simplement qu'il y a eu des modèles, des expériences passées qui ont fait que ça a créé des peurs, ça a créé des barrières pour arriver à s'ouvrir en amour. Je pense que l'amour, c'est un peu comme un jardin de fleurs. Si toutes les fleurs étaient pareilles dans le même jardin, avec la même manière de séduire, ça serait un peu ennuyeux, et que on a toute cette capacité ou tous cette capacité de trouver plusieurs personnes, pas seulement une personne, en tout cas moi c'est ce que je pense, qui te correspond, qui est bien avec toi, qui a envie de construire avec toi, et que finalement la seule chose qui te bloque, c'est toutes ces peurs, toutes ces barrières plus ou moins conscientes dans la relation.
Moi, je suis pas du tout aguerrie au discours de coaching. Et donc, en revanche, j'ai recueilli déjà plus d'une cinquantaine d'histoires d'amour, d'histoires de rencontres amoureuses dans Crush. Et ce que j'entends régulièrement dans les témoignages, c'est « j'étais attirée par les mauvais mecs ou par les mauvaises personnes qui ne me convenaient pas, mais j'en étais pas consciente ». Tu sais, ce mythe du bad boy. T'es attirée par le bad boy, celui qui est séduisant, un peu lover, qui est séduisant aux yeux de plein d'autres femmes aussi. Est-ce que c'est, par exemple, ça dont tu parles précisément ?
Oui, alors là, je vais sûrement rejoindre un peu ton papa. En fait, quand tu es attiré par quelqu'un et que tu as l'impression que c'est un modèle qui te convient pas, il y a une vraie logique derrière. Et la logique, c'est ce sentiment d'attraction. En fait, pourquoi tu es attiré par une personne, ça se passe souvent au niveau des phéromones. Et ça va suivre deux principes bien précis. Un, tu vas automatiquement choisir quelqu'un qui a un peu l'ADN opposé à toi, au cas où vous avez envie de faire des enfants.
Ça, c'est pour optimiser le patrimoine génétique et l'améliorer, donc assurer la survie derrière de tes gènes.
Exactement. Et puis, le deuxième principe, en fait, c'est le principe des similitudes. Tu vas automatiquement choisir quelqu'un sur la base de modèles que tu connais. Et donc, si tu as l'impression d'être attiré par les personnes indisponibles, les bad boys, ça c'était mon cas, etc., etc., ça veut dire que quelque part, dans des expériences passées, et encore une fois, c'est avec l'optique de ce système nerveux, de ce système de survie, donc c'est peut-être même pas la réalité de ce qui s'est passé, c'est la perception que tu en as eue. Ça veut dire simplement que quelque part dans tes expériences passées, tu as enregistré que l'amour, c'est le drame pour ceux qui sont attirés par les bad boys, ou les personnes indisponibles, typiquement, l'amour, c'est sympa, mais c'est à petite dose. Là, j'ai l'exemple d'une personne que j'ai coachée, que je cite souvent, je vais l'appeler Paola. Cette personne, en fait, elle avait une super relation avec son père, une relation super complice, et quand elle est venue me voir, elle comprenait pas pourquoi elle rencontrait que des personnes indisponibles. Alors, soit les personnes, elles étaient prises par leur boulot, soit elles avaient un hobby, voyager tout le temps, soit c'était plutôt émotionnellement indisponible dans le sens où ils sortaient d'une rupture, etc. Et quand on est allé faire un bilan de son passé, de ses relations amoureuses, en fait, son père, c'était le parent avec lequel elle avait une relation la plus complice. Mais son père travaillait beaucoup. Et si tu veux, son schéma, en fait, son modèle, c'était l'amour, c'est sympa, mais à petite dose. Et c'est ce qu'elle répétait dans ses amours, finalement.
Et alors, par exemple, est-ce que le modèle parental joue sur... Enfin, j'imagine que oui. Moi, par exemple, tu vois, je suis issue d'une famille de parents divorcés, qui ont divorcé très tôt. C'était à l'époque où les divorces se passaient pas forcément bien. C'était même plutôt... Ça se passait assez souvent mal. Et moi, pendant très longtemps, j'ai jamais cru que c'était possible de créer un foyer épanoui, serein, où le couple parental pouvait être heureux. Ça, ça peut aussi impliquer inconsciemment nos choix.
Tu parles de mon histoire. Moi, mes parents, ils ont divorcé, j'avais 3 ans et demi, on va dire de manière pas diplomatique. Et donc, clairement, ça avait créé en moi le modèle de l'amour, c'est le drame. Donc, c'est les hauts, les bas, c'est l'inattendu, c'est l'intense. Et en fait, inconsciemment, je cherchais cette intensité. Quand je rencontrais un gars gentil, c'était à la limite ennuyeux. Il se passait rien en moi, en fait. Pas que la personne était inintéressante, mais tout simplement que, si tu veux, cette empreinte que ça va créer en moi, dans ton système nerveux, ça définit ton système par défaut. Donc moi, j'étais accro au drame, accro au problème. Et donc, quelque chose de stable, eh ben, ça faisait pas partie de ma normalité. Et donc, inconsciemment, je fuyais ça pour aller chercher quelque chose que je connaissais.
Tu es coach depuis combien de temps?
Depuis 2019, donc ça fait 4 ans déjà.
Ce métier, cette appétence pour le coaching amoureux, il est venu de ta propre histoire?
Oui, alors je suis devenue coach dans le domaine où j'ai été le pire, où ça a été le plus dur pour moi. Donc.
Où tu as le plus souffert.
Ouais, exact.
Est-ce qu'on raconterait pas ton histoire à toi, qui je trouve est très très belle et illustre parfaitement ce dont on est en train de parler? Est-ce qu'on revient à ce moment de ta vie? T'es un peu perdue, c'est ça? Dans ta vie amoureuse, t'as eu des ruptures, des histoires, deux histoires difficiles, des ruptures un peu douloureuses pour toi. Est-ce que tu peux me raconter ça et me dire dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là?
Alors moi, en fait, dès mes premières relations amoureuses, le scénario de fin était pas bon. C'est-à-dire que le schéma que je répétais, c'était les hommes me quittaient pour une autre. Déjà, j'ai mis assez longtemps avant de me mettre en relation. Donc, il y avait quelque part quelque chose qui me disait l'amour, fais attention, c'est peut-être pas le top top. Et je répétais ce schéma de trahison. Alors, la première fois, je me suis honnêtement pas trop posé de questions. Mais quand j'ai commencé à répéter ça et j'ai commencé à me poser la question, est-ce que j'avais un comportement qui allait pas? Alors, est-ce que j'étais trop exigeante? Est-ce que j'étais pas assez? Et puis, vraiment, je me remettais à chaque fois en question en termes de communication, sélection. Et j'avais toujours cette idée, ah, je vois bien que le divorce de mes parents, c'était pas forcément une image positive, mais juste en prendre conscience, ça m'aidait pas. Et je voyais que plus je rentrais en relation, plus cette peur, elle augmentait. Et donc, je suis allée chercher de l'aide, en fait. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui bubuguait quelque part. Et c'est là où j'ai été chercher plutôt des approches par le corps. C'est là où j'ai découvert, par exemple, la méthode que moi, j'ai appris par la suite. Et commencer à faire un travail. Et je voyais bien que ça débloquait des choses, que mes relations commençaient à aller mieux et j'avais autour de mes 27 ans même réussi, alors pour moi c'était vraiment une réussite, à emménager enfin avec quelqu'un, c'était André à l'époque, on a été 3 ans en relation. En parallèle, j'ai étudié cette méthode-là. Là où, a été le gros choc et le gros où je me prends vraiment le mur en pleine face, c'était, je me rappellerai toujours, j'étais dans ma chambre et d'un seul coup, je découvre des factures de téléphone qu'il avait cachées. Et si tu veux, pour moi, là, mon monde, il s'est effondré parce que j'avais eu cette impression d'avoir dépassé en fait tous mes schémas et à nouveau ce schéma de trahison qui revenait. Mon monde s'écroule. Il me raconte des bobards. Et là, en fait, pour moi, c'était très clair. Comme j'avais déjà commencé ce processus, je savais qu'il y avait en fait quelque chose que je n'avais pas identifié dans mes schémas amoureux. Donc, on habitait ensemble. Hein. J'ai pris mes valises J'avais 3-4 cartons. J'ai juste pris mes vêtements. J'ai laissé les meubles. J'ai tout laissé. Et dans ma tête, je me suis dit, tu sais quoi? Ok, j'ai mal, ça fait mal, c'est dur. Mais là, je sais qu'il y a encore un truc à travailler. J'ai pris mes clics et mes claques. J'ai trouvé une maison, une chambre dans une colocation. J'ai tout redémarré ma vie, en fait, comme ça.
Sans état d'âme, enfin, vraiment comme ça, du jour au lendemain, t'es partie.
Oui. Tu vois, pour moi, j'ai eu quand même plusieurs discussions, mais je voyais qu'en face de moi, il n'y avait pas l'honnêteté nécessaire pour redonner une chance à la relation. Donc, j'ai vraiment tourné la page. Ça, c'était vraiment un gros progrès en soi parce que j'ai compris que ma part de tort, il y avait des comportements que j'aurais peut-être dû changer. Il y avait aussi ce schéma amoureux qui était encore là, qui s'est répété. Et puis, je me suis dit, ben, ok, je vais pas me détruire ma vie ou aller au fond ou toucher le fond juste parce qu'il y a cette séparation. C'est ça où je voyais déjà un changement.
Donc, tu décides, en fait, tu prends la décision de ne pas t'enliser et de ne pas poursuivre cette relation. Est-ce que tu es consciente que c'est pas ce qu'il faut faire? C'est pas le chemin à prendre?
Oui. Le tort que j'avais eu, en fait, quand j'ai regardé ces 3 ans de relation, il y avait déjà eu une fois une alerte où il m'avait menti, en fait. Il avait vu quelqu'un et il m'avait pas dit. Et puis, si tu veux, je l'avais pris sur moi en m'étant dit, ah non, mais c'est parce que, bon, t'as eu beaucoup de trahison, tu es sceptique, c'est toi qui as vu le poisson plus gros que c'était. Peut-être qu'il a eu peur de pas te le dire. Tu vois, je l'ai vraiment pris sur moi. Puis en fait, avec le recul, en fait, je me suis rendu compte que c'était en effet quelque chose de pas clair et j'aurais pas dû passer outre, en fait, ou pas aller dans la confrontation jusqu'à que je trouve une vraie réponse. Tu vois, ça, c'était mon principal.
Après, souvent, dans ce cas-là, on n'a pas envie d'y aller. On a tellement peur de ce qu'il peut y avoir derrière qu'on n'y va pas.
Eh oui. C'est ce que j'invite toujours à faire, c'est de confronter, en fait. L'idée, c'est pas, alors confronter, pas en mode j'ai les armes, mais de aussi faire confiance à cette petite intuition, cette petite voix, parce que le but, en fait, quand tu construis une relation, c'est pas de construire une relation en marchant sur des œufs, c'est de construire une relation où tu te sens en sécurité, et c'est dans ce cadre-là que tu peux vraiment t'épanouir.
Je me suis déjà tellement retrouvée dans cette situation, moi aussi, en fait, où t'as le truc qui dit ça, c'est bizarre. Et puis, inconsciemment, tu dégages la petite lumière qui s'est allumée et tu continues d'avancer. Donc là, toi, t'as suffisamment progressé et t'as suffisamment pris confiance en toi aussi, j'imagine. J'ai l'impression aussi que t'es hyper lucide, en fait. Tu lis vachement bien la situation à ce moment-là.
Oui. Et c'est ça qui m'a, si tu veux, empêché d'aller au fond du gouffre et de perdre espoir, parce que c'était vraiment clair qu'il y avait quelque chose que je continuais de répéter, que je n'ai, à l'époque, au moment où je suis partie, je l'ai pas identifié clairement. C'est une petite histoire qui est arrivée juste après qui m'a fait la petite étincelle où j'ai dit j'ai repéré. Je prends mes clics et mes claques. C'est clair pour moi quelle a été ma part de tort. Je vais jusqu'au bout de la discussion. Je donne pas de chance. J'emménage dans cette colocation temporaire. Ben voilà, je me mets au centre de ma vie. Je vais de l'avant avec des projets qui me tenaient à cœur dans ma vie. Et puis, un des projets que j'avais envie, c'était de faire un voyage avec des copains en Israël. On fait tout un tour, visite guidée, etc. Et je suis arménienne d'origine, donc j'ai un nom arménien et j'ai pas mal voyagé. Donc, j'avais des visas jordaniens, des visas marocains, enfin vraiment pas mal de voyages. Et au moment, en fait, d'arriver à la frontière, on me met en slip, mais vraiment en slip au sens propre, et on m'accompagne dans l'avion. Avant tout le monde, c'est-à-dire que si tu veux, je suis passée par une voie un peu spéciale, et puis il y avait la personne qui nous gardait dans l'avion en fait, pour pas qu'on. Et je me retrouve par hasard avec quelqu'un à côté de moi, un bel homme, avocat, aussi backpacker, tu vois, ça fait la
wow.
Petite étincelle.
Ah ouais.
Et on a vachement le temps de discuter du coup, parce que mes amis, ils étaient dans la voie normale, si tu veux. Et on discute, on a beaucoup de passions en commun, les voyages. Il a un côté « je veux sauver le monde », il fait pompier volontaire, donc tu vois.
Wow. Ouais, l'homme idéal.
Ouais, là, ça commence à cocher beaucoup de cases. Et puis, il aime la course à pied, comme moi. Et on discute et il me dit « ah, mais t'as fait quoi comme course à pied ? Et puis, t'as fait quel temps ?» Puis, on discute et puis, à la fin de la discussion, tu vois, il me demande pas mon numéro. Puis là, je dis « oh, ok, bizarre, strange ». Mais tu vois, je suis pas dans une optique à essayer d'ouvrir des portes, donc je laisse tomber. Et puis là, c'est le roman d'amour qui arrive. Il me retrouve grâce à cette course, donc il connaissait mon prénom. Il me Google, il m'envoie un mail à mon travail en me disant « bah écoute, j'ai pas osé te demander ton téléphone, mais voilà, tu m'as fait un gros effet. Voilà, il n'y a pas souvent qu'on rencontre des personnes avec qui il y a cette étincelle qui arrive. » Et là, c'est vraiment les films d'amour romantiques comme tu peux imaginer. Il m'envoie des fleurs, des surprises. Il me propose qu'on fasse des rencontres où il fait des mises en scène, mais incroyables. Tu vois, il m'envoie un livre sur les meilleures randonnées en Suisse avec un petit message à l'intérieur. Prépare tes bagages, vendredi 17h, je te fais une surprise. Enfin, tu vois, le grand jeu. Et je me laisse prendre au jeu. Je me dis, allez, on y va, bien.
T'as aucune lumière qui s'allume à ce moment-là, toi ?
Au départ, non. Et c'est après quand je me suis dit, tiens, au niveau de la régularité des appels, au niveau, tu vois, de « je vais découvrir ton monde, tu viens découvrir mon monde », là, je vois qu'il n'y a pas trop d'engagement. Et là, c'est là où l'étincelle arrive. Et je me dis, ça y est, c'était la répétition du modèle de mon père, dans ses aspects négatifs. Mon père, c'est un homme à femme, un beau parleur, où il arrivait vraiment à sortir le grand jeu, dérouler le tapis rouge, etc., etc. Et aussi quelqu'un qui avait des soucis d'engagement. Et mon père, c'est quelqu'un de formidable, hein. C'est pas parce qu'on a le schéma de chercher des hommes comme son père, c'est souvent, en fait, que quand ça marche pas, en fait, quand on n'a pas une relation, des relations amoureuses qui sont satisfaisantes, c'est que quelque part, on a enregistré certains traits négatifs du papa qui deviennent notre base, notre moteur de recherche intérieur inconscient. Et quand j'ai fait ça, je te jure, je suis allée chez mon thérapeute, je lui ai dit « je veux faire ce schéma-là, je sais c'est ça ». Et après, j'ai rencontré mon mari.
Alors, ça fait juste penser à une anecdote qui est sûrement grossière, mais qui, je pense, est une image qui illustre ce que tu dis. Moi, mon papa, je pense que j'ai un peu la même relation avec lui que toi. Je suis très complice avec lui, on est très proches. Et mon papa, il joue de la guitare et il chante. Et donc, quand j'étais gamine, en fait, il jouait de la guitare, il chantait. Parfois, je chantais avec lui. Je le fais encore de temps en temps aujourd'hui. Et effectivement, il y a un moment dans ma vie où dès qu'un mec sortait sa guitare pour gratter, jouer, j'étais amoureuse de lui. C'est un bon exemple ou pas ?
Ouais, c'est super, ouais.
Il pouvait être pas du tout mon genre, trop ci, trop ça, pas du tout s'exprimer comme moi, pas être du même milieu, naninana. Si je sortais sa guitare, j'étais amoureuse de lui. Bon, donc tu prends conscience de ça, déclic. Qu'est-ce que tu fais de cette histoire, du coup ? De cet homme qui te sort le grand tapis rouge, mais qui n'est pas disponible.
Eh ben, basta, on arrête.
Et tu dis que c'est là que tu vas rencontrer ton mari.
Alors après, je continue ma vie. En fait, je suis déjà super contente d'avoir mis le doigt sur ça. Et c'est vraiment ce que j'ai changé, en fait, dans les méthodes que j'ai apprises ou ce que j'ai rajouté. Parce que pour moi, en fait, pas tous les schémas ont la même importance ou le même impact sur ta vie amoureuse. Il y a vraiment une hiérarchie. C'est cette hiérarchie-là, en fait, que j'avais pas mis en application sur moi, qui m'a fait, en fait, prendre autant de temps pour vraiment changer là. Et donc après, je reprends ma vie, je me dis, ok, je sais que j'ai changé ça, je sais, l'amour, c'est pas ma priorité, ça viendra quand ça viendra, je vais m'éclater dans ma vie. Et puis, un de mes rêves, c'était d'organiser un week-end de ski en Suisse à Zermatt. Donc, ça faisait déjà un moment que j'étais en Suisse, je suis française à la base, mais j'avais jamais été à Zermatt. Et puis, je me dis, bon ben, je propose à des amis, copains, copines, qui a envie de venir, on fait 3 jours ski, fête, etc. J'organise le week-end, tout le monde dit, ok, auberge de jeunesse, Zermatt, etc. Et dernière minute, une copine nous lâche. Et donc, j'envoie un mail dans tout mon groupe, en fait, en disant, bon, bah, il y a une place qui s'est libérée. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un? Et bah, mon mari s'est pointé.
Attends, il n'est pas encore ton mari.
Ouais. Un Zurichois s'est pointé.
on l'appelle le Zurichois. J'aime bien ça. On l'appelle comme ça?
Tu peux l'appeler Zurichois, ouais. Bah, on flirte. Il a un peu pris l'initiative, il est venu, et puis moi, j'étais en mode flirtage, mais j'étais pas, si tu veux, dans l'optique de rencontrer quelqu'un, plutôt envie de m'amuser, etc. Donc, on flirtouille. À la fin de ce week-end de ski, il m'envoie un email, genre 1 ou 2 jours après, en me disant, ah, j'espère que tu es bien rentrée, ça me ferait plaisir de te revoir. Et là, je lui réponds, alors lui, il habitait Zurich, moi j'habitais Genève, c'est à peu près 3 heures de route. Et là, je lui ai dit, écoute, je viens de sortir d'un truc, j'ai pas la tête à me mettre en relation, mais si tu veux, on peut rester amis. Et là, il a eu la meilleure réaction possible. C'est de me dire, écoute, moi, je te vois pas comme ami. Il a arrêté le contact.
Hyper droit dans ses bottes.
Hyper droit dans ses bottes. Je pense qu'il se serait, tu vois, accroché, insisté, ça aurait été mort. Il a arrêté de donner des nouvelles, vraiment aligné. Ça l'a marqué d'ailleurs. Le mail, il l'a encore sauvé dans ses favoris. Hein. Je peux dire que ce mail, ça l'a marqué. Lui, il avait vraiment eu le crush, si je reprends le mot. Moi, j'étais pas... Tu vois, j'allais partir en vacances au Japon. Enfin, tu vois, je m'étais fixé une course de montagne, donc j'avais des entraînements assez intensifs. Donc, tu vois, ma vie, elle était en pleine expansion. C'était pas ma première priorité. Et puis, du coup, ben, les mois passent. Et puis, au mois de mai, c'est mon anniversaire. Et puis, j'adore tout ce qui est soirée déguisée. Et donc, j'organise une soirée. Ça fait partie de mes hashtags. J'adore les soirées déguisées et donc du coup, j'organise une soirée juste au corps, années 80, fluo, enfin tu vois.
Oh, génial.
Et j'invite en fait toute l'équipe qui était venue au ski parce que c'est rigolo et tout, y compris les Zurichois. Et donc du coup, on commence à échanger sur les tenues des années 80. Donc tu vois ces pantalons multicolores un peu larges.
Bien sûr, je vois.
Tu vois lesquels?
Évidemment.
Il me dit, bah ouais, moi je viens, et puis tu vois, mais j'ai pas, c'était sans intention, vraiment, c'était, bon, on fait la fête, on est grand, plus on est fou, plus on rit. Et donc, il se ramène déguisé en Björn Borg, avec...
Björn Borg, c'est le tennisman.
Le tennisman, ouais, avec la perruque, la tenue super 80s, un peu, tu vois, serrée, enfin...
J'adore.
Trop cool. Et là, en fait, on fait la fête.
Attends, t'étais déguisée en quoi, toi?
Alors, moi, j'avais un juste corps rose fluo qui allait jusqu'en haut, comme ça. J'avais un short vert fluo. J'avais un blouson doré. J'avais, je crois, un bandana. J'étais bien. Et puis, en fait, à chaque fois que quelqu'un venait à la fête, je lui faisais faire un étirement de stretching, tu vois. c'était une belle soirée. Et... En plein milieu de la soirée, il m'embrasse. Alors, je me laisse embrasser, on est d'accord? En fait, après coup, il m'a dit, pour moi, en fait, il fallait que je tente le coup. C'était le tout pour le tout. Je sentais qu'il fallait que j'essaye.
Björn Borg a senti qu'il fallait qu'il emballe Cyndi Lauper. On est d'accord?
Ouais, voilà. Et puis, je lui dis, ouais, mais tu sais, la distance, c'est un problème pour moi. C'est OK. Si tu t'engages à venir, qu'on se voit tous les week-ends. Et il me dit, ouais, pas de problème. Et depuis ce moment-là, on s'est vus tous les week-ends.
Donc, vous êtes ensemble maintenant.
13 ans plus tard encore.
Voilà, on est 13 ans plus tard. Ok, d'accord. Donc, on est 13 ans plus tard. Comment vous allez avancer dans l'engagement réciproque l'un envers l'autre? Il était là ton point de douleur et ta prise de conscience?
Alors, ben, j'avais fixé ce cadre de se voir toutes les semaines. Et si tu veux, là où j'ai vraiment senti une différence, c'est que c'était pas moi qui était la seule demandeuse de l'engagement. C'est-à-dire que lui aussi, ben, l'engagement, ça venait aussi naturellement de lui. Et c'est là où j'ai vraiment senti que j'avais switché dans mon schéma amoureux, parce que ça, je ne l'avais jamais vécu avant. J'avais toujours un peu l'impression d'être là, celle qui pousse, celle qui dit « bon, bah alors, on est quoi ?» etc. On se voit toutes les semaines. Au bout de 2-3 mois, il me demande « est-ce que tu voudrais faire des vacances avec moi ?» On fait une semaine à Paris. Ça se passe super bien. Moi, j'avais aussi des courses à pied que j'avais prévues. Ben, il vient avec moi. Enfin, tu vois, ça se passe naturellement. On se présente nos amis, la famille, etc. Et à peu près 6 mois après le début, on est vers l'automne, je vois qu'il y a la panique en moi qui arrive. C'est-à-dire que c'est presque trop beau pour être vrai. Là, je sens en fait que la distance, ça m'insécurise. Pourtant, les faits, ils sont là. C'est-à-dire, on s'appelle tous les jours, on se voit tous les week-ends. Il m'a présenté à sa famille, à ses amis. Il m'a même proposé d'habiter ensemble, tu vois, de se dire « ah ben moi, je serais prêt à venir ». Et puis, toi, si tu as envie de venir, tu vois, il y a un engagement qui est clair. Les faits sont là, mais malgré ça, en fait, je sens que dans ma tête, le scénario... Non, mais là, il y a baleine sous caillou. C'est trop beau pour être vrai. Ça se trouve, quand je suis pas là la semaine, c'est la bamboula chez lui, etc. Et ça, je m'y attendais pas, en fait. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, en fait, quand tu as fait une grosse... et je le constate, en fait, chez les personnes que j'accompagne. Quand tu te fais tellement une grosse transformation... que tu es en train de vivre une nouvelle réalité dans ta vie amoureuse, tu as cette phase un peu où tu te dis « non mais c'est pas possible ». Et ton cerveau, en fait, il doit s'habituer que c'est ton nouveau domaine des possibles. C'est un peu comme les gens qui ont gagné au loto, qui passent d'un état de certaine richesse à un état de millionnaire. En fait, c'est tellement un saut énorme qu'il y a besoin d'avoir suffisamment de temps avec ces preuves-là pour vraiment que le cerveau puis le corps disent « ah, mais ça, c'est ma nouvelle réalité, en fait. C'est quelque chose de normal. » Et moi, ça se présentait de différentes manières. Alors, je dis pas que mes solutions ont été les meilleures, hein, mais ça m'est arrivé de débarquer à l'improviste. « Oh, je te fais une surprise !» Alors, c'était pas que je doutais de lui, mais c'était un peu pour me confronter à mes peurs, en fait, qui sortent. Il est physio de métier, donc il voit des personnes en soutien-gorge, culotte toute la journée. Quand il va faire des formations, c'est la majorité, ce sont des femmes qui sont en soutien-gorge, culotte toute la journée pour faire les manipulations. Je vois en fait que certaines situations me mettent vraiment en anxiété, en insécurité, et je décide de lui en parler. Alors c'était pas forcément très, on va dire, ça m'a pas redoré mon blason parce que j'y suis allée vraiment en toute vulnérabilité. Je lui ai expliqué en fait vraiment très clairement que avant lui, eh ben j'ai plutôt répété des schémas de trahison où mes partenaires me trompaient et que même si lui, il y a aucun fait qui me font penser que il peut faire ça. J'ai vraiment de l'insécurité en moi et j'ai du mal, en fait, à me sentir sereine. Et je dis quelque chose que personne aurait envie de dire, mais je l'ai fait. Et je pense que ça a été une manière... Enfin, il m'a aidée à briser le dernier bloc, cette dernière armure, en fait, ou cette dernière peur que j'avais en moi. Et je pense pas que j'aurais pu la casser sans son aide. Parce que je lui dis, bah écoute, voilà, J'ai vraiment toujours cette peur-là. Et un truc qui pourrait m'aider, c'est d'avoir le sentiment ou d'avoir la possibilité de regarder dans ton téléphone quand j'ai cette peur. Et là, en fait, il m'a dit, bah, il n'y a pas de problème.
Waouh! Je ne sais pas quoi dire. Et non, parce que jamais j'aurais osé faire telle demande. La plupart des gens ont répondu non.
Ouais. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose que l'autre est obligé. J'en parle d'ailleurs dans un épisode de mon podcast Sécurité interne versus sécurité externe. Mais si tu veux, pour moi, le fait, je crois que j'ai peut-être regardé 2-3 fois, honnêtement. Mais après, j'ai pas eu besoin de regarder. Ça a été le fait, en fait, qu'il m'écoute, qu'il comprenne la difficulté que j'avais. Que au lieu de me juger, au lieu de me dire non mais ça se fait pas, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui que je recommande à tout le monde de demander ou de faire. J'allais pas dans une optique de contrôle, c'était vraiment plus dans une optique ben en fait je me sens mal, je le vis mal. Et le fait qu'il aille dans mon sens, qu'il me dit mais écoute, peux regarder, tu risques rien, ça a suffi en fait pour casser le dernier maillon que j'avais en fait. Parce que cette confiance ou cette ouverture, eh ben, ça a relâché. J'ai vraiment senti que ça a relâché quelque chose en moi, de me dire, ben, ok, même dans ma partie, on va dire ma plus vulnérable, où t'es un peu honteuse des fois de te sentir un peu comme ça, eh ben, il m'a pas jugée, il m'a pris comme j'étais, et puis il a décidé, il n'était pas obligé, il a décidé de m'aider sur cet aspect-là.
Tu allais quelques fois, et en fait, après, t'as plus eu besoin d'y aller. La confiance était là. Moi, j'ai un peu vécu la même chose avec mon amoureux, avec qui je suis aussi depuis 11 ou 12 ans. C'était effectivement, mais je l'ai encore de temps en temps, où je me dis, non, mais c'est pas possible. On est trop heureux. C'est pas possible. Mais alors, moi, pour le coup, je fais carrément le lien avec mes parents, tu vois, qui étaient tellement malheureux ensemble. Non, mais c'est pas possible. On est trop heureux. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Alors, je doute pas de lui, mais je doute plutôt de moi. Puis, je doute de la vie et de ce qui peut arriver dans la vie. Mais, et c'est une zone d'insécurité aussi. Fut un temps quand les gamins étaient petits, les enfants étaient petits. Je chialais de bonheur dans notre lit le matin quand les deux déboulaient à nous faire un câlin au réveil, tu sais. Je pleurais quoi. J'avais la larme à l'œil et tout, en me disant non mais c'est une blague, ça peut pas être la vérité. En fait, je suis dans une dimension parallèle. Et je réfléchis à comment j'ai dépassé le truc. C'est encore un peu là de temps en temps, mais moins. Je crois que c'est avec le temps en fait.
On dit que cette année d'attachement sécure t'aide à vraiment faire un changement, en fait. La co-régulation, ça crée suffisamment de sécurité, tu guéris dans le lien. En fait, c'est pour moi la différence avec juste le dev perso. Quand tu es dans la relation amoureuse, tu guéris aussi au travers de la relation. L'idée, c'est pas d'être deux personnes qui sont totalement en mode colocation. En fait, il n'y a pas de mal à ce que l'un aide l'autre dans son cheminement, pour autant que c'est pas quelque chose de forcé, c'est pas quelque chose de obligatoire, mais tu peux le faire parce que tu as envie d'aider l'autre et que tu es dans une optique d'amour, une optique d'équipe. Et c'est ce qui est beau dans la relation, en fait. Parce que tu guéris grâce à cette relation.
Et donc, avec lui, avec le Zurichois, tu arrives à dépasser ce blocage en lui faisant cette demande un peu originale. Et ensuite, derrière, les choses sont simples entre vous, tout ce qui va s'enchaîner derrière.
Alors, on a toujours eu des caps. On a eu aussi des crises de couple, ce qui est plutôt quelque chose de sain, en fait. Pour moi, quand un couple a un peu des crises, par exemple, nous, la première, c'était vraiment à l'arrivée de notre premier enfant. Ça veut dire déjà que, un, il n'y a pas un des partenaires qui s'oublie totalement. Et ça veut simplement dire qu'il faut remettre un équilibre dans la relation, réajuster pour que ça repart comme en 50 pour une nouvelle phase de vie. On n'est pas dans une vie où tout est prévisible, contrôlable. Il y arrive toujours des épreuves dans la vie. Et c'est normal que ces épreuves-là, quand ça stresse un des deux partenaires, bah que ça a un impact aussi sur la relation. Et l'idée, en fait, c'est pas d'éviter ça, mais c'est d'apprendre à réajuster au fur et à mesure que ça arrive. Donc, une fois qu'on a passé ce cap, on a décidé d'habiter ensemble. Donc, il m'avait demandé. Moi, j'en avais déjà un peu marre de Genève et j'avais l'envie profonde de m'expatrier. Alors, si tu m'avais posé la question, je pensais plutôt à aller un peu plus loin qu'à 3 heures de route. Hein. Mais il y a quand même un changement de langue. Donc, c'était plus dans ma langue maternelle. Donc, l'objectif était ça.
Donc, tu vas à Zurich, c'est ça?
Je vais à Zurich.
À Zurich, on parle suisse-allemand?
On parle suisse-allemand, oui. Donc, c'est même pas l'allemand que j'avais appris, c'est suisse-allemand. Et je trouve vraiment le job qui est une évolution en termes professionnels, qui demande l'anglais. Donc, ça me laisse, tu vois, vraiment le temps d'y aller. Moi, j'ai toujours aimé bosser dans des plus petites équipes et tout. Nickel. Je signe mon job. Un mois avant de commencer le job, on décide de se faire un voyage aux Philippines. Enfin, tu vois, le truc, le hasard qui fait bien les choses, tu vois. On a notre voyage et tout. J'arrive à Zurich, je m'installe à Zurich. 2 mois après, je suis licenciée. Restructuration économique, la boîte a plus de moyens et je me retrouve dans une ville où je parle pas la langue. Alors, je parlais déjà allemand assez bien, mais peut-être pas à un niveau où tu peux l'utiliser dans ton travail. Et là, en fait, je remercie d'avoir fait le choix de déménager, pas que pour le Zurichois. Si tu veux, quand j'ai accepté de bouger, je me suis toujours dit, Sandy, tu bouges à Zurich et tu te mets les conditions pour que ce soit OK pour toi, même si avec le Zurichois, ça marche pas. Ça m'a énormément aidé parce que du coup, j'avais commencé à mettre en place de me refaire un réseau d'amis, de faire les activités que j'aimais bien. Et puis du coup, en fait, je me suis dit, OK, ça me demande d'apprendre un peu plus intensivement l'allemand, ce que j'ai fait. Donc, j'avais 6 heures de cours par semaine d'allemand. Ensuite, j'ai trouvé un job temporaire où j'ai fait mes preuves, j'ai été engagée, etc., etc. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose que je recommande à toutes les personnes qui décident de faire le pas pour rejoindre l'autre, de toujours se poser la question, OK, sous quelles conditions je serais OK de faire ce pas-là, même si la relation ne marchait pas, pour pas, si tu veux, apporter un poids de plus dans cette relation et de le faire vraiment en conscience, en fait.
Aujourd'hui, vous habitez ensemble à Zurich. Ça fait 13 ans que vous êtes ensemble. Vous avez 2 enfants.
Un
enfant. Ah oui, parce que tu m'as dit mon premier enfant tout à l'heure, j'ai cru qu'il y en avait un deuxième.
J'ai des chats, alors je les considère.
Je dis pas, j'ai loupé un truc.
Non,
vous avez un petit garçon.
Un petit garçon de 8 ans.
Est-ce que tu sais dire, il y a une question qui m'est venue tout à l'heure, en quoi il est différent des autres, le Zurichois? Ça veut dire que tu as attiré une personne qui te convient. Donc, en changeant ton paradigme à toi, tu attires la personne qui te convient. En quoi il est différent, lui, des autres garçons que tu avais avant?
En termes de sécurité, d'acceptation de comment je suis, de me rassurer, c'est le 180, enfin, c'est vraiment l'opposé. Même mes amies, elles m'ont dit, mais c'est incroyable comment le Zurichois, il est différent, en fait, des autres personnes que tu as rencontrées. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui est capable d'introspecter, de se remettre en question, de voir qu'est-ce qui se joue dans la relation. Il a une très bonne capacité d'analyse. On est très opposés, mais quelque part, en fait, le côté d'avoir des opposés assez forts, déjà, on parle pas la même langue. On a une langue en commun qui est l'anglais, mais des fois, comment moi, j'interprète l'anglais et comment lui interprète l'anglais, c'est aussi différent. Donc, ça demande, tu vois, beaucoup de se mettre un peu dans les baskets de l'autre, dans la vue de l'autre. Et je pense que avoir cette habitude d'avoir, parce qu'on a des visions très opposées, tu vois, moi je crois en Dieu, lui il est athéiste, je suis médecine parallèle, naturelle, il est plutôt médecine classique, enfin tu vois, on a vraiment beaucoup de, on a des cultures différentes, etc., etc. Ben, je pense que notre force, c'est d'arriver à pas essayer de faire virer l'autre vers nous, tu vois, que l'autre soit finalement un miroir de nous-mêmes, mais d'arriver à gérer avec les deux, en fait, avec nos différences et comment on peut avancer.
Et est-ce que des fois, tu replonges dans tes travers ou jamais? Est-ce que des fois, tu as de nouveau des moments d'anxiété?
Tu vois, là où je vois que ça a vraiment changé, c'est, je l'ai remarqué à plusieurs choses. La première fois que je l'ai remarqué, c'était, il était allé en week-end de formation. Tu dois toujours faire des formations continues en physio. Et j'étais toute seule à la maison. Il était là, pas là de tout le week-end. Et en fait, pas une seule fois, je me suis posé la question s'il y avait quelque chose. Et en fait, ça m'a tellement surprise que je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai vraiment passé un cap. La deuxième fois où je l'ai remarqué, c'est quand on a eu notre première crise de couple avec l'arrivée de notre enfant. Tu vois, ça chamboule pas mal la vie de couple. On a des visions. Alors, moi, j'ai une éducation plutôt franco-française et l'éducation suisse, c'est un peu l'un à l'opposé de l'autre. Et là, en fait, bah, il y avait des fois des disputes. Des fois, quand t'es au milieu de la crise, tu dis « non, mais ça va jamais s'arrêter ». Après tout le travail que j'avais fait sur les schémas amoureux, je dis « je dois encore faire ça, c'est horrible ». Mais ça demande d'autres compétences, en fait. Et là, en fait, j'étais vraiment de me dire que même si la relation devait s'arrêter, je serais triste, je serais forcément, c'est une fin, il y a un deuil à faire, mais je sais que je redémarrerais une autre relation sur cette même base. C'est-à-dire que j'allais pas revenir à mon point de retour d'avant, je sais pas comment le dire autrement, mais ce sentiment, ouais, que j'avais dépassé un cap.
Et Sandy, tu dis que tu crois en Dieu. Est-ce que ça veut dire que tu crois au destin? Est-ce que tu crois que les choses sont écrites? Est-ce que tu crois que une force supérieure a mis le Zurichois sur ton chemin? Ou que tu es la seule responsable?
Ah, c'est une très bonne question. Alors, pour moi, il y a ce côté destin dans le sens où je pense que la vie t'amène plusieurs fois des opportunités de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux faire un morceau de vie. Mais il n'y a pas qu'une personne. Déjà, je pense que la vie est ou Dieu est suffisamment généreux pour t'apporter plusieurs fois cette opportunité et que la chose qui empêche ça, en fait, c'est ton système de survie. Si dans ta réalité ou dans ce que tu as engrammé dans ton corps, ta seule réalité, c'est le drame, la souffrance, c'est difficile, en fait, de voir les opportunités qui se présentent à toi. Donc, pour moi, en fait, la rencontre que j'ai faite avec mon mari, oui, il y a une partie du destin. Je l'avais, pour la petite histoire, je l'avais même mis dans mon vision board sans le savoir. Donc, il y avait le côté manifesting à fond. Mais c'était pour moi du job. C'est pas un hasard si j'ai rencontré mon mari dans le sens où j'ai vraiment fait ce travail de fond.
Pour attirer une personne qui te convient, qui te rend heureuse et épanouie.
Pour l'avoir et pour croire que ça faisait partie de mon domaine des possibles, en fait. Parce que si dans ton corps, tu penses pas que c'est possible pour toi, tu vas pas voir la personne. Moi, c'est ce que beaucoup de coachés me disent, c'est dit, Sandy, cette personne, avant, je ne l'aurais jamais remarqué.
Sandy, peut-être pour conclure cet épisode passionnant, est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu as envie de mettre en avant dans l'histoire que tu viens de nous raconter, dans le témoignage que tu viens de nous livrer et ta vision? Est-ce qu'il y a un élément en particulier que tu as envie de laisser aux auditeurs sur la fin de cet épisode?
Oui, c'est cet aspect que quand la bonne relation, elle arrive, et que tu as ce sentiment, c'est trop beau pour être vrai, ou toi, quand tu as eu les larmes qui sont arrivées en disant c'est pas possible, un petit peu peut-être de normaliser cette phase, oui, ce qui peut générer encore une insécurité tant que ton cerveau a pas enregistré que oui, c'est ton nouveau domaine des possibles, oui, c'est ta nouvelle réalité. Et dans ce cas-là, en fait, dans cette phase-là, c'est important d'avoir du soin envers soi-même, d'accueillir ses émotions, verbaliser avec l'autre pour qu'il comprenne ce qui se passe en toi et peut-être pas qu'il l'interprète comme un manque de confiance, etc., etc. Et que en accueillant cette phase, c'est là où tu vas vraiment arriver à passer ce cap et à vraiment intégrer que cette nouvelle réalité, c'est ce que tu vis. Et toi, qu'est-ce que tu retiendrais de cet épisode?
Moi, ce que je retiens, c'est l'importance de la prise de conscience de ces mécanismes qu'on a dans nos relations et l'importance qu'ils ont dans le choix de nos partenaires. Et donc, l'importance de prendre conscience de ça pour réussir à trouver une relation épanouissante dans laquelle on est heureux. Je me suis tellement retrouvée dans tous les mécanismes et dans tous les schémas qu'on a évoqués. Je pense que même, pour te dire, un jour, je raconterai mon histoire, l'histoire de ma rencontre avec mon amoureux sur Crush. Je pense que là, en fait, tu m'as apporté une nouvelle vision sur la façon de la raconter. Parce que moi aussi, toutes mes histoires avant de le rencontrer lui, maintenant, je prends conscience qu'elles étaient vraiment, le fruit de ces schémas. Et c'est absolument passionnant et je comprends que tu en fasses ton domaine de recherche et d'expertise. Et merci pour cet éclairage que tu nous as apporté aujourd'hui, Sandy, aux auditeurs, à tous les auditeurs de Crush, de ton podcast, S'ouvrir à l'amour et à moi. Merci beaucoup, Sandy.
Ben, merci à toi, c'était aussi un super échange. Merci beaucoup.
J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.